Bienvenue sur le podcast Portrait de génie. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un de mes peintres préférés. Il s'agit de Jérôme Bosch. Donc Jeronimus Bosch est né vers 1450 et est décédé en août 1516 dans la commune de Bois-le-Duc, qui à l'époque de sa naissance correspondait aux Pays-Bas bourguignons. Et quand il est décédé, c'était le Pays-Bas des Habsbourg. Alors sa biographie manque de certitude. On a quand même quelques informations qui permettent de retracer sa vie. Alors on sait qu'il est issu d'une famille de peintres et d'enlumineurs, originaire d'Aix-la-Chapelle, qui s'installe donc aux alentours de 1423 à Bois-le-Duc. On sait qu'il naît aux alentours de 1450. On sait également que son père Antonius installe en 1462 un atelier familial dans une maison du village. C'est là qu'il va se former aux côtés de son frère aîné. On suppose qu'entre 1476 et 1480, il aurait effectué un tour de compagnonnage, donc un voyage destiné à compléter sa formation. On sait également qu'il se marie en 1478 avec une riche aristocrate, Aleide van der Merwen, qui lui assure a priori une aisance financière et un statut social beaucoup plus élevé que le sien. En 1486, il entre comme membre notable dans la confrérie Notre-Dame, qui est une association religieuse consacrée au culte de la Vierge, dont il devient le peintre attitré. Il continue à travailler dans l'atelier familial qu'il finit par diriger après la mort de son frère en 1497. Il s'entoure également de collaborateurs, parmi lesquels figurent ses neveux. En septembre 1504, le gouverneur des anciens Pays-Bas, Philippe Ier le Beau, dont la cour est installée à Bruxelles, verse à Jérôme Bosch une somme d'argent, ce qui lui permet d'asseoir son nom et sa réputation internationale. Il travaille donc toujours pour une clientèle locale, mais également pour la cour bruxelloise. Il meurt en 1516 sans descendance, probablement de la peste. À la suite de sa mort, c'est son neveu Johannes qui récupère la direction de l'atelier familial, tandis que Gielis Panedel complète en 1522 et 1523 les volets de Jérôme Bosch pour le retable de la confrérie de Notre-Dame de l'église Saint-Jean. Parmi la quarantaine d'œuvres authentifiées, on en retrouve dans une grande partie des musées d'Europe, tels que le Prado, où on retrouve le Jardin des Délices. On en a également au Louvre, à Venise, à Lisbonne. Empreint de la religiosité de son époque, Jérôme Bosch puise une inspiration nouvelle qui lui fait un peu délaisser l'iconographie traditionnelle pour s'orienter vers des œuvres sacrilèges où le religieux se confronte au péché et à la damnation. L'enfer se mêle au paradis et le satirique à la morale. On y retrouve l'une de ses principales préoccupations qui est celle de l'humanité corrompue et condamnée à l'enfer éternel qu'on retrouve dans le triptyque du chariot de foin qui est au musée du Prado pour avoir tourné le dos à la loi divine. On voit également dans son œuvre une obsession du péché qui s'illustre parfaitement dans les sept péchés capitaux qui est au musée du Prado, dans la nef des fous au musée du Louvre et également dans le triptyque Le Jardin des Délices qui est au Prado. Le Jardin des Délices est une de ses œuvres les plus connues, si ce n'est la plus connue. Alors c'est une véritable allégorie fantastique complexe, c'est une composition de personnages et d'animaux hybrides et qui comporte de nombreuses références à l'alchimie. Il est rattaché historiquement au mouvement des primitifs flamands. Donc après sa mort, il a été beaucoup imité. Ça a été un véritable casse-tête pour les historiens de l'art afin d'authentifier les œuvres réellement de sa main, de celles qui ont été créées dans son atelier, ou différentes mains comme ses neveux y travaillaient, ou alors carrément des copies ou des pâles imitations. On retrouve également beaucoup de copies de ses fameuses diableries, qui est carrément devenu un véritable genre auquel une génération de peintres s'est totalement identifiée, et avec des imitations parfois très proches de la main du maître. Il a influencé un grand nombre de peintres après sa mort, tels que Peter Bruegel l'Ancien, qui s'approprie pleinement son répertoire et qui l'adapte à des tableaux de très grand format et qui lui vaut une grande appréciation par la cour habsbourgeoise de l'époque. Alors son œuvre la plus connue est le Jardin des Délices. Alors c'est la principale pomme de discorde entre spécialistes, puisque entre les volets latéraux, le paradis terrestre avec Adam uni à Ève à gauche et l'enfer à droite, le seul lien est le péché. Certains ont déduit que le jardin au milieu était une sorte de triomphe du péché, une apothéose de la luxure se concluant en enfer, déroulement logique dans la perspective chrétienne, et que la fonction de tout triptyque en ces temps était d'orner un autel, celui-ci ne faisait pas exception. D'autres auteurs ont vu dans l'œuvre une somme ésotérique, interprétant systématiquement chaque détail sous l'angle de la connaissance alchimique. Alors en plus d'avoir influencé un très grand nombre de peintres, de la Renaissance notamment, il bénéficie également d'un certain succès dans la culture populaire. On peut par exemple retrouver sur la pochette de l'album du groupe Deep Purple, on a les membres du groupe qui sont intégrés dans le volet L'Enfer du Jardin des Délices. On a également la pochette du disque Dangerous de Michael Jackson qui reprend des éléments du Jardin des Délices toujours. Il y a également la pochette d'un album du groupe Dead Can Dance. Donc c'est vraiment un peintre fantastique, totalement mystique. Ses œuvres sont des fresques dont on ne se lasse pas de les regarder, même sur des bouquins. Elles sont tellement riches d'enseignements, il y a tellement d'interprétations possibles qu'on peut clairement y passer des heures et pour s'interroger sur plein de choses, sur l'alchimie, sur la religiosité, le bien, le mal, le paradis, l'enfer, enfin tout ce qui aujourd'hui régit nos vies et notre culture. Donc mon tableau préféré reste le triptyque Le Jardin des Délices, que je trouve assez fabuleux. J'espère un jour aller le voir à Madrid. Je vais terminer ce podcast comme à mon habitude par une citation du peintre. Les autres cherchent à peindre les hommes tels qu'ils apparaissent vus du dehors. Celui-ci a l'audace de les peindre tels qu'ils sont au dedans.